grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Et ce matin, je vous propose une émission spéciale où les enfants et les adolescents pourront poser toutes leurs questions sur le cerveau, un organe à l'honneur tout au long de cette saison, lors du cycle de conférences France Inter, diffusé dans une centaine de cinémas en France depuis la Maison de la Radio, animé par notre camarade Mathieu Vidard et le neurologue Lionel Nakache. Le cerveau qui fascine les grands et les petits. Nous tendons le micro aux plus jeunes pour découvrir leur étonnement, leurs interrogations sur le fonctionnement de cet organe extraordinaire qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Questions sur les pouvoirs du cerveau, sur la mémoire, le langage, l'intelligence, les émotions. Pour leur répondre, l'honorable Olivier Houdet, professeur de psychologie à la Sorbonne et chercheur au CNRS. Vos enfants et vos adolescents peuvent également poser toutes leurs questions au 01 45 24 7000. Et si vous avez conservé votre âme d'enfant, appelez également le standard. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. À la une du 1 cette semaine, notre deuxième cerveau, ça tombe bien.
Et oui, ça tombe bien, on parlera du génie de l'intestin.
A tout à l'heure, Julien Bisson, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébi.
Bonjour à nos invités, Olivier Houdet, bonjour.
Bonjour.
L'un des experts éclairés de notre émission, professeur de psychologie cognitive à la Sorbonne, chercheur au CNRS. Vous avez publié un ouvrage destiné aux enfants, Mon cerveau, dans la collection Questions-réponses chez Nathan. Comment expliquez-vous, que le cerveau fascine autant?
Il a toujours fasciné, vous savez, les grands philosophes dans l'Antiquité grecque, comme Platon, rêvaient déjà de voir à travers la boîte crânienne le cerveau. Il a fallu attendre 2000 ans, c'est-à-dire jusqu'à il y a environ quelques années, pour que des technologies nouvelles d'imagerie cérébrale permettent de reconstruire l'image du cerveau sur ordinateur. Et les enfants eux-mêmes peuvent voir leur cerveau sur ordinateur. Et évidemment, c'est un objet de fascination, c'est une extraordinaire machine, un trésor de neurones que l'on a dans notre tête, chacun.
Avec nous également Gwenaëlle Boulet, bonjour.
Bonjour.
Rédactrice en chef d'Astrapi et quatre jeunes avec nous. Héloïse, bonjour. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
8 ans et demi. Thomas, 8 ans et demi également, bonjour.
Bonjour.
Alice, 15 ans. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Et Max, 9 ans, bonjour.
Bonjour.
Tout va bien?
Oui.
Pas impressionné d'être au micro de France Inter?
Non.
En tout cas, en antenne, vous aviez l'air totalement à l'aise. Alors Thomas, tiens, je te laisse poser la première question. À Olivier Houdet.
Pourquoi a-t-on un cerveau ?
Eh bien, tu sais que ton cerveau est dans ton corps, que pour marcher, tu as besoin de jambes, pour digérer, tu as besoin d'un estomac et d'un intestin, pour respirer, tu as besoin de tes poumons. Eh bien, pour penser, pour apprendre à l'école, pour réfléchir, tu as besoin de ton cerveau. Et le cerveau, c'est l'organe, on va dire, de l'apprentissage. Comment on découvre des choses nouvelles ? On pense, on raisonne. Et ton cerveau aussi contrôle tout ton corps. C'est le chef d'orchestre du corps.
Clément, 6 ans, nous demande si c'est le cerveau qui nous contrôle. Olivier Houdet.
Oui, le cerveau contrôle absolument tout. C'est pourquoi, en général, la mort ultime est la mort cérébrale. Outre la pensée, le cerveau contrôle le cœur, contrôle en partie, on va le voir, l'intestin, même s'il y a des allers-retours. Donc le cerveau contrôle absolument tout. Là, quand nous sommes en train de parler, chaque parole est programmée quelques dizaines de millisecondes avant par notre cerveau.
Question de Bénédicte qui nous dit « Ma petite fille Chloé, alors qu'elle avait 5 ans, m'a un jour demander, mamie, est-ce qu'il y a un cœur dans le cerveau? J'aurais tellement aimé pouvoir lui dire oui.
Alors, magnifique question d'enfant, parce que je parlais de Platon tout à l'heure, donc philosophe de l'Antiquité. Il avait un élève à l'Académie à Athènes qui s'appelait Aristote. Et Aristote croyait que la pensée était dans le cœur. Et ils se disputaient pour ça. L'un disait non, c'est dans le cerveau. L'autre disait non, c'est dans le cœur. Et vous trouverez ça dans le livre. Il y a une double page sur l'histoire du cerveau. Et vous verrez dessiner Aristote et Platon qui se disputent jusqu'aux découvertes actuelles à travers les siècles. Ce que l'on sait aujourd'hui, Ali, c'est qu'effectivement, il y a dans le cerveau une représentation de tout le corps et en particulier du cœur. Et il y a aussi dans le cerveau une cartographie de nos émotions et de nos sentiments. Donc ce qu'on appelle le cœur, ou le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme disait un grand philosophe, en fait tout cela se passe dans le cerveau parce que le cerveau cartographie absolument tout le corps, dont le cœur.
Gwenaëlle Boulet, quelques questions en vrac de vos lecteurs.
Oui, on a effectivement Clément, 6 ans, qui nous demande est-ce que c'est notre cerveau qui nous fait parler, qui nous fait courir. Louise, qui a également 6 ans, j'ai mal au ventre, est-ce que c'est mon cerveau qui décide si je suis malade? Est-ce que c'est mon cerveau qui me dit si j'ai mal ou pas?
Alors, est-ce que c'est notre cerveau qui nous fait parler et courir?
Ben oui, bien sûr, c'est grâce à nos pieds et nos jambes que l'on court, mais la commande vient du cerveau. Et quand on a rédigé ce livre pour enfants dès 7 ans, on a commencé précisément par une double page avec toute une série de questions. Le cerveau sert à jouer, sert à courir, sert à jouer au football. C'est aussi le cerveau qui se déclenche quand on est triste, quand on est heureux, donc ce qu'on appelle les émotions. Et en effet, le cerveau sert à toutes nos activités de chaque jour.
Et la question de Louise, j'ai mal au ventre, c'est mon cerveau qui décide si je suis malade, c'est mon cerveau qui me dit si j'ai mal ou pas?
Oui, absolument. Vous avez une région dans le cerveau qui s'appelle l'insula, le cortex insulaire, qui est directement lié à la douleur et aux souffrances dans le corps. Et il faut en effet que cette souffrance atteigne le cerveau pour que se déclenche une prise de conscience qui dit j'ai mal. Où je n'ai plus mal. Et en effet, tout passe par le cerveau. C'est pourquoi lorsque nous sommes endormis ou que le cerveau est endormi, on ne ressent plus la douleur.
Gounel Boulet, comment les enfants que vous avez interrogés dans Strapi imaginent le cerveau?
Alors, ils ont plein de représentations. On a Clément, 6 ans, qui dit « Le cerveau, c'est une forme en forme de nuage, mais je ne sais pas trop s'il est petit ou s'il est grand. Est-ce qu'il est collé à la tête ?» Du coup, il se demande si s'il est collé à la tête, c'est lui qui fait pousser les cheveux. Et pour Hugo, 8 ans, il est rose, mou et ovale. Il est quand même assez gros, en tout cas plus gros que celui d'une souris ou d'un singe. Mais alors là, Safiane, 10 ans, elle est moins sûre parce qu'elle dit quand même « Les singes, ils savent faire beaucoup de choses ». Quant à Héloïse et Anouk, elle se demande si le cerveau, c'est comme dans le film de Vice Versa, avec un grand tableau de bord et des manettes partout. Et pour finir, Salomé, 9 ans, se demande si le cerveau pourrit quand on est mort ou si c'est comme les os, qu'il reste quelque chose.
Olivier Houdet, alors, est-ce que ça ressemble d'ailleurs à Vice Versa, ce qui se passe dans notre cerveau, Vice Versa, le célèbre film d'animation de Pixar?
Alors en fait, par rapport aux commentaires des enfants, le cerveau est mou, oui, c'est vrai, et il est gris, sa couleur est grise. C'est pourquoi on parle de matière grise quand on parle d'intelligence. Et il faut savoir qu'à la naissance, le cerveau pèse environ 400 grammes. Donc cet objet mou pèse 400 grammes. À un an, il pèse environ 1 kilo. Et à 5 ans, 1,3 kilo, qui est presque le poids de notre cerveau adulte, 1,4. Et ce cerveau est dans la boîte crânienne, qui le protège. Mais il ne faut pas non plus, comme on bouge tout le temps, qu'il cogne l'os. Et donc il y a autour du cerveau, entre le cerveau et la boîte crânienne, un liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, dans lequel le cerveau baigne en quelque sorte. C'est drôlement bien fait.
Hein, Thomas, t'es rassuré parce que t'avais une question, je crois, sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau, hein, c'est ça hein.
Oui, c'est ça.
Donc, il a répondu à ta question ou pas, le professeur Olivier Houdet ou
Il vient de le dire, alors oui.
Bon, mais c'est parfait, alors.
C'est précisément, parce qu'il y a plus que ça dans le cerveau. Là, j'ai simplement dit sa forme, sa couleur. Il faut savoir que, cher Thomas, dans ton cerveau, tu as environ 80 milliards de neurones. Les neurones, ce sont les petites cellules grises, comme dit Hercule Poirot, les petites cellules grises qui font fonctionner ton cerveau. Et ces 80 milliards de neurones se connectent entre eux. Et il y a 1 million de milliards de connexions dans votre cerveau à chacun. Max, Thomas, Héloïse, vous avez chacun 1 million de milliards de connexions dans votre cerveau. Ça veut dire que dans le cerveau de chacun, ainsi que Alice, l'adolescente, il y a un réseau de neurones, donc un réseau beaucoup plus complexe que l'Internet. Vous imaginez l'Internet dans le monde? Eh bien, dans le cerveau de chacun, biologiquement, avec vos neurones, il y a des connexions qui peuvent se faire, qui sont plus complexes qu'Internet. Et c'est ça, votre intelligence à chacun, c'est un trésor, mais qu'il faut enrichir par l'apprentissage à l'école ou à la maison.
Olivier Houdet, notre cerveau ressemble un peu à une noix. Il est composé de deux hémisphères.
Oui, absolument. C'est une bonne comparaison. Il est composé de deux hémisphères et de 6 lobes. C'est-à-dire que dans chacun de ces hémisphères, il y a encore une sous-partie, une région qu'on appelle un lobe. Et chaque lobe a un rôle particulier. L'un va vous servir à calculer, à vous repérer dans l'espace, savoir ce qu'est la gauche, ce qu'est la droite, si c'est devant, si c'est derrière. Un autre lobe va vous permettre de lire, de classer les objets selon leur forme, leur couleur. Un autre va vous permettre de réfléchir, quelquefois de ne pas répondre trop vite. Et tout cela est extrêmement précis. Donc deux hémisphères, oui, comme une noix. Et vous avez vu que la noix, elle est un peu plissée. Ben, le cerveau est plissé aussi. Et pourquoi l'est-il? Parce que quand vous étiez les enfants dans le ventre de votre maman, se construisait ce qu'on appelle le système nerveux central, tous vos nerfs dans le corps. Il va y avoir un échange d'informations entre les sensations qui touchent les nerfs arrivent au cerveau, ils donnent l'information, et puis le cerveau va de façon en retour renvoyer des informations pour, par exemple, faire une commande motrice, mon geste ou ma parole. Eh bien, il faut savoir que ce cerveau qui a toutes ses fonctions se construit par le système nerveux central dans le ventre de la mère, et à un moment donné, ce cerveau qui pourrait être beaucoup plus grand va rencontrer la boîte crânienne et donc va devoir se plisser et va devenir de plus en plus plissé. Et tous ces plis dans le cerveau, ça fait comme des petites montagnes et des vallées. Puisque on peut voir des vallées quand on regarde des montagnes. Eh bien, tout cela, ça fait la forme d'un cerveau qui paraît très replié dans la boîte crânienne. Et c'est formidable parce qu'on peut aller se promener dedans, comme on se promènerait dans les Alpes en montagne. On monte sur des montagnes, on gravit des parois, on se promène calmement dans des vallées. Eh bien, tout ça, c'est la réalité de votre cerveau que l'on peut voir sur ordinateur pour imaginer ces promenades dans un cerveau humain.
Question de Thomas.
Est-ce qu'il y a des cerveaux plus grands que d'autres ?
Oui, il y a des cerveaux plus grands que d'autres, tout comme il y a, on peut avoir des corps plus grands que les autres, mais la taille du cerveau n'est pas liée à l'intelligence. C'est tout à fait indépendant.
Est-ce que mon cerveau est le même que celui de Gwenaëlle Boulet, d'Héloïse, de Max ? C'est les mêmes cerveaux, hein ?
Le cerveau est à la fois universel et individuel, unique. Je vais prendre la comparaison avec les visages. On a tous un visage, deux yeux, un nez, une bouche, ici, dans ce studio de France Inter, mais aussi partout dans le monde. Et chaque auditeur qui nous écoute a les mêmes caractéristiques de son visage. Mais chaque visage est différent. Quand je vois Ali, maintenant que nous nous connaissons, en quelques dizaines de millisecondes, je le reconnais et il va me reconnaître. Ainsi que pour vous, chacun des enfants. Maintenant qu'on s'est vu, on se reconnaîtra. Donc, nos visages sont... Et quand je vois Max, ce ne sera pas quelqu'un d'autre, même si mon chien s'appelle Max. Mais, et qu'il est très beau, c'est un superbe Doberman qui a aussi un cerveau. Les chiens ont un cerveau. Mais quand je vois Max, c'est pas quelqu'un d'autre. Pareil pour Thomas, pareil. Donc, c'est pareil pour le cerveau. Chaque cerveau est globalement le même. Les milliards de neurones que j'ai évoqués, deux hémisphères, gauche et droit, six lobes. Mais dans le détail, toutes nos connexions sont construites un peu différemment selon l'environnement que l'on a eu. Et ces fameuses vallées et montagnes dont je parlais, elles sont aussi dessinées un peu différemment. Le dessin du cerveau de chaque enfant et de chacun adulte est un peu différent. Donc, on peut dire que le cerveau est universel. On a tous de par le monde, quelle que soit la couleur de notre peau et l'endroit où on se trouve, le même trésor, le même cerveau, mais chacun de nos cerveaux est aussi un peu différent, comme les visages.
Bonjour Esther, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Tu as 10 ans et tu as une question. Bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Esther.
Je voudrais savoir pourquoi a-t-on des réflexes ?
Tiens, bonne question Olivier Houdet.
Oui, c'est une excellente question.
Merci pour ta question Esther.
Merci Esther. Et dans mon laboratoire du CNRS, à la Sorbonne, on travaille beaucoup sur cette question, les réflexes. On appelle aussi cela des automatismes, c'est-à-dire des choses que l'on fait automatiquement. En général, c'est très utile les réflexes. Ça vient donc d'un circuit très rapide entre le système nerveux, celui qui est dans le corps. Hein, tu as par exemple une stimulation, une sensation, ça passe par tes nerfs, qui passe par la colonne vertébrale, par le tronc cérébral et qui arrive dans le cerveau. Et à ce moment-là, quand tu as un réflexe, de façon très rapide, ça va déclencher un geste ou déclencher une parole. Donc c'est un circuit ultra rapide, automatique dans le cerveau. Mais parfois, apprendre et penser, c'est aussi aller contre ces réflexes, contre ces automatismes. Et dans ce cas-là, il y a une région du cerveau à l'avant qui s'appelle le cortex préfrontal.
Ouh là, c'est compliqué.
Ben non, il y a le mot front dedans, préfrontal. Le front, vous savez ce que c'est, mais il est juste derrière votre front. C'est une partie du cerveau et qui sert justement à résister aux réflexes, ne pas répondre trop vite et être plus posé, plus réfléchi. Donc, il y a les deux dans le cerveau.
Merci, Esther, pour avoir posé ta question. Vous pouvez, comme Esther, nous appeler au 01 45 24 7000. Héloïse, en studio avec nous, je crois que tu as une question.
Comment le cerveau contrôle les muscles ?
Un peu comme je viens de le décrire, grâce au cortex préfrontal et aussi au cortex moteur. C'est-à-dire que tout nos... Il faut savoir que dans votre cerveau, il y a un petit bonhomme qui est dessiné c'est votre corps. Tout votre corps est reproduit en petit dans le cerveau. C'est-à-dire, la bouche, par exemple, eh bien, il y a des neurones qui sont configurés, qui représentent la sensation que vous avez sur votre bouche, si votre doigt touche la bouche, ou quand vous bougez la bouche, cette partie du cerveau est stimulée, en quelque sorte. Pareil pour chacun de vos doigts. Et en fait, dans cette représentation du corps dans le cerveau, vous avez des doigts très, très grands, par exemple, parce que les doigts sont très, très sensibles et parce qu'on les utilise très souvent. Ce qui veut donc dire que les commandes des muscles des doigts dans le cerveau, eh bien, elles prennent beaucoup de place parce qu'on utilise beaucoup plus ses doigts que, par exemple, voyez, le muscle qui est ici, l'avant-bras, je l'utilise un peu, mais pas du tout autant que mes doigts en permanence. Et donc, tout cela est commandé par le cerveau grâce à un schéma corporel, un petit corps qui est représenté dans le cerveau, en lien avec le cerveau moteur qui déclenche votre motricité, vos gestes. Et pour cela, en général, on utilise des membres comme les bras et les jambes avec des muscles.
C'est quoi exactement un neurone? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un synapse qui lui est associé?
Alors, une synapse, Ali.
Une synapse, et pardon. Merci pour la correction, professeur Houdet.
Une synapse. Et je fais instituteur, donc là, je me ressens plus instituteur avec vous, les enfants, que
alors,
professeur.
Alors, un neurone et une synapse.
Alors, le neurone, c'est vraiment l'unité de base, la cellule du cerveau. Il y a aussi des neurones ailleurs dans le corps, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le cerveau n'est constitué que de neurones, il y a un très grand nombre de neurones. Ces neurones, ils ont un corps cellulaire, c'est-à-dire que c'est le centre du neurone, et il part du neurone un long tube qu'on appelle l'axone, et qui va lui permettre d'envoyer l'influx nerveux, l'information. Ça fonctionne de façon électrique dans le cerveau. Il y a un courant électrique, un influx nerveux qui va passer d'un neurone à l'autre par ce long tube, l'axone. Et pour arriver à l'autre neurone, il faut un système de conjonction qu'on appelle une synapse. Et une synapse, c'est ce qui va permettre l'arrivée sur le neurone. Et elle est chimique. Elle va déclencher une substance chimique qu'on appelle un neuromédiateur. Médiateur parce qu'il va faire la médiation, le transfert de l'information d'un neurone à l'autre. Donc, neurone, il a son centre, corps cellulaire, par le long tube qu'on appelle un axone, il va envoyer l'information à un autre neurone. Et c'est ainsi que tous les neurones communiquent via les neurones et les synapses, hein, qui se branchent sur d'autres neurones. Et c'est comme un énorme réseau d'informations. C'est pourquoi on peut le comparer vraiment à Internet.
On peut prendre un cas concret. Par exemple, quand j'ai chaud et que j'ai soif, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait l'échange d'informations? Comment voyagent les informations?
Alors ça, c'est un très bon exemple. Ça veut dire que ce qui va se passer dans votre cerveau va être déclenché par l'extérieur. Il fait chaud. À ce moment-là, votre corps va ressentir la chaleur. Vous allez transpirer, etc. Immédiatement, ces informations sont transmises du corps vers le cerveau. Et à ce moment-là, le cerveau peut décider, eh bien, de mettre une casquette parce qu'il a trop chaud, ou d'aller se mettre à l'ombre, ou de boire un verre d'eau. Mais à l'inverse, vous pouvez aussi avoir parfois quelque chose qui vient de vous, de votre cerveau. Vous avez une idée. Vous vous dites, ah, je m'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Se dit Thomas. Thomas se dit, ah, si j'appelais Max au téléphone pour qu'on aille faire un jeu dans le jardin. Eh bien, l'idée est venue de vous. C'est votre cerveau qui a déclenché ce que vous avez fait. Alors que quand vous avez froid ou chaud, ça vient d'une sensation extérieure.
Ça va, vous avez tout compris autour de la table, Max et Louise? Bon, très bien.
C'est clair.
Julien Bisson de l'hebdomadaire Le 1.
Oui, moi, c'est l'expression, c'est le cerveau qui décide, qui m'interroge toujours. Qui décide? Quand le cerveau décide, qui décide? Je me souviens, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, comme ceux qu'on a autour de la table, je regardais Il était une fois la vie. Et dans Il était une fois la vie, on avait l'image de celui qui décidait. Dans le cerveau, il y avait un vieux monsieur avec une longue barbe qui était censé représenter celui qui donnait les commandes. Au cerveau. Et puis ensuite, comme on l'a dit, il y a eu Pixar, vice-versa, avec cette fois-ci des émotions qui appuyaient sur des boutons de notre cerveau. Quelle est la représentation, peut-être la plus fidèle, de ce qui se passe dans notre cerveau quand on décide quelque chose?
Eh bien, c'est une très bonne question. La décision, le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on soit libre de faire ce que l'on veut. Aujourd'hui, on ne pense plus de façon dualiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le cerveau et puis d'un côté la pensée ou la conscience. Les deux sont tout à fait imbriqués. Et c'est évidemment vous, en tant que moi, chacun son moi, sa personne, qui décide grâce à son cerveau.
Allez, vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces peuvent appeler le 01 45 24 7000 et poser toutes les questions sur le cerveau. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation, Stéphanie Texier.
d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment. Et triste et sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est. Des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moquette. Du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles. Un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale,
Alain Souchon, foule sentimentale.
Puis, le téléphone va. Et le cerveau devint le grand standard.
Grand bien vous fasse.
Maintenant, nous disons le grand ordinateur et parlons entrée, sortie et mémoire.
Sur France Inter.
Ça va, petit loup ?
Ah oui !
À quoi il sert le cerveau ?
À diriger les
yeux. Oui, là, on lève le
bras. Réfléchir.
Inès.
À réfléchir.
Il sert à réfléchir.
À être attentif.
À être attentif, très bien.
Il ne sert pas à faire que les choses sérieuses. Il sert aussi à faire toutes les choses amusantes.
Un extrait du doc hyper connecté sur Arte. On entendait Jean-Philippe Lachaud, le chercheur Jean-Philippe Lachaud. Il est 10h29 et ce matin, émission spéciale avec des enfants qui nous posent toutes leurs questions sur le cerveau, 01 45 24 7000, mais également au studio avec quatre apprentis journalistes, Thomas et Héloïse, 8 ans et demi, Max, 9 ans et Alice, 15 ans. Et pour leur répondre, Olivier Houdet, professeur de psychologie cognitive à la Sorbonne et chercheur au CNRS. Héloïse, je crois que tu as une question.
Que fait le cerveau pendant que l'on dort ?
Ah, c'est une très bonne question. Il y a aussi répondu dans le livre pour les enfants, on a mis « Et quand il dort ?» Eh bien, il faut que tu saches que quand tu dors, ton cerveau continue, lui, de travailler. Il consolide la mémoire, en fait. Tout ce que tu as appris pendant la journée, à lire, à écrire, ou un morceau de musique, si tu apprends la musique, eh bien, se rejoue dans ton cerveau pendant la nuit, pendant que tu dors. Et cela, ça consolide les connexions cérébrales. Ce qui fait que dormir, ça sert non seulement à se reposer, mais ça sert aussi à rejouer tout ce qu'on a appris durant la journée. C'est donc très important, ça consolide ta mémoire. Et ça explique aussi que parfois, quand on a dormi, et que ben, la veille, on n'avait pas pu résoudre un problème, on n'avait pas trouvé la solution. Eh bien, quand on se réveille, on la trouve. Parce qu'entre les deux, la mémoire s'est consolidée, les connexions se sont renforcées. Donc, il faut absolument dormir, c'est bon pour le cerveau, parce que lui continue calmement de travailler quand toi, tu dors ou que tu rêves.
Max ?
Mais est-ce que c'est différent ? Parce que quand on dort, on fait parfois des rêves. Est-ce que quand on fait des rêves, notre cerveau réfléchit ?
C'est une très très bonne question. Quand on fait des rêves, le cerveau rêve. Et il y a aussi beaucoup de recherches en IRM. Donc, faudra quand même, moi je veux aussi vous poser une question sur comment est-ce qu'on pourrait voir le cerveau. Mais avant de passer à cela, grâce à justement des imageries, des techniques qui permettent de voir le cerveau, on observe le rêve et toutes les phases du rêve. Et on sait quand un cerveau est en train de rêver. Et après, on peut mettre en relation ce que l'enfant va dire le lendemain. Ah, je me souviens vaguement que j'ai rêvé de ceci. On pourra voir ce qui se passait dans son cerveau à ce moment-là. Donc il y a aussi toute une imagerie du rêve qui est aujourd'hui technologique et que l'on peut représenter sur ordinateur en lien avec évidemment le contenu subjectif, c'est-à-dire ce que toi tu as ressenti, raconté de ton rêve.
Thomas.
Du coup, il est un peu dans la lune.
Oui, on peut dire ça, il est un peu dans la lune. Et c'est très bien, hein, le cerveau, il peut être dans la lune, il peut être en train de rêver, mais aussi, il peut aussi, quand tu dors, être en train de recalculer, de repasser des morceaux que tu as lus pendant la journée. Et tout cela, c'est très important. Mais oui, le cerveau peut être dans la lune ou dans ses rêves, bien sûr, c'est ça qui est joli.
Gonelle, une question d'Iris, Gonelle Boulet, question d'Iris, 8 ans, lectrice de...
Lecteur,
c'est un petit garçon,
oui,
lecteur d'Astrapi.
Oui, oui, qui se demandait si effectivement pendant la nuit, est-ce que le cerveau tournait au ralenti ?
Non, il ne tourne pas au ralenti, il est bien au calme, puisqu'en effet, il y a beaucoup moins de stimulation extérieure. Donc c'est là où on peut dire que le cerveau est calme. Hein. Il n'y a pas toutes les stimulations, tous les bruits, toutes les images, tous les sons que l'on voit pendant la journée ou que l'on entend. Donc le cerveau est au calme, mais il continue à travailler. Et comme je vous le dis, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il peut faire deux choses, soit réapprendre, consolider, renforcer ce qu'il a appris durant la journée, soit rêver.
Bonjour Juliette, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Tu as 10 ans et tu appelles de Bretagne. On écoute avec beaucoup d'attention ta question.
Donc je voudrais savoir pourquoi le cerveau il n'enregistre pas tout d'un coup, parce que je pense que ce serait vachement pratique, par exemple pour les dictées ou tout ça.
C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que le cerveau n'enregistre pas tout d'un coup, Olivier Houdet?
C'est exact, hein. Le cerveau, c'est pour ça qu'on compare parfois le cerveau à un ordinateur, mais c'est faux, le cerveau n'est pas un ordinateur. Le cerveau est plus subtil, plus délicat, et il faut faire un effort pour apprendre, ce qu'on appelle l'effort cognitif. Et le cortex préfrontal derrière notre front, à l'avant du cerveau dont je parlais, nous permet de faire cet effort cognitif. C'est-à-dire qu'il est très très activé, très engagé quand on doit réfléchir, apprendre par cœur. Mais après, une fois qu'on a fait l'effort et qu'on a appris par cœur, eh bien ces connaissances, une liste de mots, par exemple, ou une poésie, elle se cristallise, c'est-à-dire qu'elle s'installe profondément dans votre cerveau et à ce moment-là, vous ne devez plus faire d'efforts. Et en effet, le cerveau fait plus d'efforts qu'un ordinateur ou qu'un enregistreur pour apprendre. Mais s'il fait plus d'efforts, ça veut dire aussi qu'il réfléchit plus à ce qu'il apprend. Et donc, on raisonne, on a des idées, on a des émotions lorsque l'on apprend. Ce qui veut dire que ça prend plus de temps. Mais c'est plus riche.
Cognitif, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ?
Cognitif, ça veut dire connaissance, connaître. Compter, c'est du cognitif. Lire, c'est du cognitif. Donc tout ce qui est relatif à l'intelligence, la connaissance, la construction de ce qu'on appelle le développement cognitif.
Merci Juliette, j'espère qu'on aura répondu à ta question. Thomas, une question ?
Mais quand on a la puberté, est-ce que notre cerveau il change aussi ?
Ah, oui, très bonne question.
Bien sûr, il change. Il y a des aspects chimiques, hormonaux.
Quand
et
on
surtout,
attrape la puberté.
Donc je vois que tu poses des questions pour l'avenir proche. Il y a aussi toutes les émotions qui vont venir dans le cerveau se bousculer. Et en fait, il y a vraiment une révolution des émotions dans le cerveau à l'adolescence qui fait que parfois, on a tous été adolescents, qu'on est un peu turbulent.
Question d'Alice, 15 ans.
Ouais. Comment fonctionnent les sentiments dans le cerveau ?
Les, pardon.
Les sentiments.
Alors, c'est une À quel sentiment vous pensez, par exemple?
Bah, tous.
La tristesse.
La tristesse. La peur.
Les émotions, globalement, les émotions.
Mais les sentiments, c'est plus subtil que les émotions. Les émotions, c'est vraiment ce qu'on ressent dans le corps. Et
pour
les émotions de base, voilà, la joie, la tristesse. Les sentiments sont dans le cerveau et c'est déjà une représentation, une cartographie dans le cerveau des émotions que l'on ressent dans le corps. Et le sentiment, ça peut être, par exemple, le regret. Ah, j'ai fait ça. Je me suis battu avec mon petit copain, j'aurais pas dû le faire, je le regrette. Là, vous avez un sentiment. Et ça, c'est vraiment installé dans le cerveau. Et vous avez des régions, des émotions dans le cerveau, des sentiments. Et cela en relation avec notre raisonnement, notre pensée. Et les sentiments sont très, très importants. Il y a un grand neurologue qui s'appelle Antonio Damasio et qui écrit beaucoup de livres sur comment les émotions du corps sont représentés dans notre cerveau et deviennent des sentiments.
Gloëlle Boulay, rédactrice en chef d'Astrapi.
Oui, parce que du coup, ça m'intéresse. Est-ce que vous parlez des sentiments, que c'est déjà dans le cerveau, mais est-ce que l'éducation, par exemple, va jouer quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'on va apprendre, par exemple, à, je sais pas, à muscler une partie qui sert à être empathique? Parce que j'imagine qu'on a peut-être un bien commun au départ, et puis il y a des choses qui vont se muscler, se développer. Comment ça se passe?
Tout le travail de mon laboratoire, et qu'on a décrit dans ce livre par des photos, des images, là, vous voyez, les enfants.
On est à la radio.
Oui, j'entends bien. Je vois bien les enfants, vous voyez, et les auditeurs imaginent qu'il y a des belles images où on voit une IRM, une caméra d'imagerie cérébrale dans laquelle rentrent les enfants. Eh bien, on étudie là différentes étapes du développement ou de l'éducation, d'un apprentissage, l'impact de l'éducation sur le cerveau, sur les reconfigurations. Donc le cerveau est à la fois un organe très spontané, c'est-à-dire qu'il y a plein de connexions qu'on dit aléatoires, c'est-à-dire par hasard se font dans le cerveau, mais aussi un organe très plastique. Et cette plasticité, c'est-à-dire plastique, le cerveau va bouger, va changer. Cette plasticité dépend directement de l'environnement, de l'éducation, de ce que vos parents vont vous apprendre, de ce que la maîtresse ou le maître à l'école va vous apprendre. Donc ça, c'est drôlement important, parce que ça veut dire que notre cerveau, il peut se développer de façon tout à fait différente, et que l'éducation a un rôle énorme sur le cerveau.
Julien Bisson, de l'Hebdo Le 1. Une question, est-ce que le cerveau a un sexe? Est-ce que, je veux dire par là, est-ce qu'il y a un cerveau masculin et un cerveau féminin?
Il y a beaucoup de débats sur cette question.
C'est controversé.
Globalement, évidemment, en termes d'intelligence, les hommes et les femmes sont exactement les mêmes, même si les femmes ont un plus petit cerveau physiquement que les hommes, parce qu'en moyenne, les femmes ont une plus petite tête que les hommes, mais l'intelligence est strictement identique. Alors, on peut imaginer qu'il y ait certains aspects comme l'espace, le repérage dans l'espace qui puisse différencier entre hommes et femmes, d'autres aspects du langage qui puissent différencier entre hommes et femmes, mais
je crois que Gwenaëlle Boulay et c'est... Alice autour de la table sont pas totalement d'accord avec ça.
Gwenaëlle
Boulay,
c'est pour ça que je donne cet exemple. En général, en effet, disons, en moyenne, en général, les femmes sont parfois moins bonnes dans le repérage spatial, meilleurs en description verbale, linguistique, et les hommes, à l'inverse, sont souvent plus bons en repérage spatial. Mais c'est un détail, je dirais. Globalement, tout le monde a le même cerveau, les filles et les garçons.
Vous avez une question de votre petit garçon, Julien Bisson? Vous vouliez poser des questions sur le cerveau.
Je lui ai dit qu'on allait parler du cerveau ce matin, et il m'a dit, mais papa, est-ce que je peux voir ton cerveau?
Ah, merci.
Justement, c'est ça qui s'intéresse.
Formidable,
comment voir
votre
cerveau,
petit garçon? Mais c'est vrai, c'est la première question qui se pose. Là, on parle du cerveau, tout le monde a des questions. Moi, je vous réponds en tant que scientifique, mais il faut l'avoir vu, le cerveau, pour pouvoir répondre. Sinon, on parlerait de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et en deux mots, on a inventé à la fin du XXe siècle, donc le dernier siècle, des grandes machines qu'on appelle des IRM, imagerie par résonance magnétique, sont des grandes caméras dans lesquelles vous glissez tout votre corps, et cette machine peut voir tous les organes de votre corps. Et le cerveau est un organe parmi les autres. Et donc, on a une reconstruction sur écran d'ordinateur tridimensionnelle, donc en trois dimensions, point par point, au millimètre près de votre cerveau. Et c'est comme ça qu'on peut, par exemple, répondre à votre question sur le rôle de l'éducation. Si on fait plusieurs IRM comme cela, images du cerveau à des moments différents, on aura évidemment les changements, l'observation des changements qui s'opèrent dans les neurones, les connexions de neurones, selon que l'enfant a lu un livre, selon qu'il a joué sur une tablette, selon qu'on lui a appris une poésie ou qu'il a fait beaucoup de calculs. Et donc l'éducation est très importante, mais pour cela il faut voir le cerveau. Il y en a donc des caméras qui permettent de le faire.
Question de Max.
Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on rigole? Parce que quand on rigole, il y a quelques fois, on ne se contrôle plus.
Oui, tu as tout à fait raison. Et le rire est une propriété sans doute essentielle du cerveau. Et on sait que le rire ou l'humour vient toujours d'un décalage. On rit parce que quelqu'un tombe alors qu'on ne s'y attendait pas. Donc c'est toujours un décalage par rapport aux prédictions que fait le cerveau. Le cerveau, il voit marcher quelqu'un dans une rue, il prédit qu'il va continuer de marcher. Puis tout à coup, il tombe. Donc il y a une surprise. Et le cerveau adore les surprises. Et donc ce décalage par rapport à la prédiction du cerveau fait que ça nous fait rire. Et on peut aussi rire tellement fort qu'on a envie de s'arrêter. Certaines personnes meurent de rire quelquefois. Et quelquefois dans des enterrements d'ailleurs, c'est très étrange.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai ce que j'ai dit. Et on peut aussi utiliser son cerveau pour contrôler le rire. Comme je parlais tout à l'heure d'inhiber les réflexes, on peut aussi essayer d'inhiber le rire. Mais le rire, c'est d'abord une question de raisonnement dans le cerveau et d'émotion par rapport à un décalage. Quelque chose à laquelle le cerveau ne s'attendait pas, eh bien ça nous fait rire. Et c'est très beau comme réaction de l'humain. Hein, c'est beau.
Ali, j'aimerais bien que tu lises la question de Noé là, qu'on vient de recevoir sur notre page Facebook.
Oui. Pourquoi les sentiments amoureux sont associés au cœur au lieu du cerveau ?
Ça, c'est une image, mais en fait, les sentiments amoureux sont vraiment dans le cerveau. Comme je vous le disais, il y a dans le cerveau une représentation complète du corps, une cartographie de toutes nos émotions et nos sentiments. Donc, quand on est amoureux, ben, c'est le cerveau qui est amoureux. Et il y a même des très belles imageries cérébrales des cerveaux amoureux, et on voit que toutes les régions du cerveau qui sont liés en général à l'esprit critique, c'est-à-dire considérer quelqu'un, ce qu'il dit est bien, est pas bien, il a raison, pas raison, sont complètement désactivés quand on est amoureux. C'est-à-dire qu'on perd l'esprit critique. Et c'est pour ça qu'on trouve la personne, fille ou garçon, dont on est amoureux absolument formidable, tout ce qu'il dit est bien. Et bien, on le voit dans le cerveau, tous les réseaux neuronaux de l'esprit critique sont désengagés.
Et puis,
si du jour au lendemain, vous êtes déçu pour une raison ou une autre et que vous n'êtes plus amoureux, vous voyez dans les régions du cerveau l'esprit critique qui se réengage. Et c'est pourquoi on est en général très critique à l'égard de ses ex, ce qu'on appelle ses ex.
Je sens que je vais venir dans votre laboratoire, Olivier Houdet. Julien Bisson, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du 1. Votre fils n'a pas le temps d'appeler le standard hein, parce qu'il est occupé à lire le dernier numéro du 1. Le 1 qui porte chaque semaine un regard singulier sur notre société. Et vous revenez cette semaine sur le génie de l'intestin, notre deuxième cerveau, oui, selon certains chercheurs. Oui, mon cher Ali, un deuxième cerveau situé un peu plus au sud que celui dont s'occupe habituellement Olivier Houdet et qui ne manquera pas de vous intéresser les enfants. Alors écoutez bien, vous allez vous bidonner. Notre appareil digestif est devenu l'un des champs de la recherche scientifique les plus passionnants qui soient. Et les spécialistes de la biologie moléculaire ne cesse de relever la nouvelle cartographie de ce continent dont on ignorait l'essentiel et dont on ignore encore beaucoup. Deux ou trois des éléments sont quand même désormais avérés. Nos intestins accueillent d'innombrables colonies de microbes, une masse de 100 000 milliards de bactéries qui pèsent quasiment 2 kilos, c'est un peu plus lourd que le cerveau. Ce fameux microbiote que l'on appelait autrefois la flore intestinale constitue la matrice la plus essentielle de notre système immunitaire qui nous permet de lutter contre les maladies. Et ce trésor bactérien est de plus en plus considéré par les chercheurs comme l'un des facteurs déterminants de notre bonne ou de notre mauvaise humeur. Il existe donc, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, un axe intestin-cerveau avec ce que la suppose de liaison directe et indirecte. C'est ce que nous explique Julie Enders. Vous vous souvenez, c'était l'auteur du best-seller Le charme discret de l'intestin, qui revient sur les nouvelles découvertes accomplies depuis la parution de son livre il y a 4 ans. L'intestin est un organe central qui fait le lien entre le monde intérieur et l'intérieur du corps humain, explique-t-elle. Il ressent tout ce qui s'y passe. Il est une sorte de manager capable de communiquer avec l'ensemble du corps, du cerveau au système immunitaire, en passant par le métabolisme et les hormones présentes dans le sang. Et pour décharger le cerveau de certaines tâches, il prend d'ailleurs régulièrement en charge certaines informations dont nombre d'entre elles n'atteignent jamais notre conscience. Et tout laisse à croire que l'intestin s'est développé avant le cerveau. Concrètement, comment l'intestin joue-t-il le rôle d'un second cerveau ? Pour Julien Enders, la connexion la plus intéressante, c'est celle qui unit le ventre au système immunitaire. L'intestin est la plus grande surface du corps reliée au monde extérieur. Puisqu'il accueille toutes sortes d'éléments extérieurs, il a besoin de cellules immunitaires. Or, ce système immunitaire influence l'humeur. En gros, juste avant de tomber malade, vous vous sentez un peu pleurnichard, pas bien dans vos baskets. Vous ne savez pas pourquoi, car vous n'êtes pas encore malade. En fait, votre système immunitaire envoie un tas de signaux d'alarme dans le sang et vous le ressentez psychologiquement. Et des études sont faites désormais pour relier l'intestin à des pathologies telles que la dépression, la maladie de Parkinson, la schizophrénie ou encore la sclérose en plaques. Et d'autres ont même révélé que les enfants souffrant d'autisme présentaient des microbiotes différents de leur père. Bref, c'est un nouveau continent qui s'ouvre à nous pour comprendre et soigner l'augmentation de l'anxiété, de la dépression dans nos sociétés, mais aussi des problèmes de mémoire, de stress ou de sommeil. Bref, après cela, vous comprendrez pourquoi les maux de ventre, c'est pas dans la tête.
De leur père, P-A-I-R, évidemment, Julien Bisson. Le génie de l'intestin, c'est le thème de l'hebdomadaire Le 1 cette semaine, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Microbiote à la Cité des Sciences à Paris. Et toutes les vidéos de Julien Bisson sont à voir sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Les enfants autour de la table et au standard ont encore un tas de questions à poser sur le cerveau. Vous pouvez appeler le 01 45 24 7000. Balthazar, interprété Entertainment.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Le cerveau humain, la structure la plus étonnante, la plus complexe de l'univers. 10 milliards de cellules ou neurones selon les uns, 100 milliards, chiffres plus probables, selon les autres. Autant que d'étoiles dans la galaxie. Mis bout à bout, les neurones d'un cerveau humain égalerait la distance de la Terre à la Lune.
Extrait d'Il était une fois la vie, 10h48 et ce matin, émission spéciale, on attend toutes les questions des enfants et des adolescents sur le cerveau, 01 45 24 7000 et avec nous en studio, Héloïse, Max, Alice et Thomas. Et pour leur répondre, Olivier Houdet, professeur de psychologie cognitive à la Sorbonne. Max, je crois que tu as un tas de questions sur l'intelligence.
Oui.
On t'écoute.
Ma première question... c'est comment peut-on évaluer l'intelligence d'une personne ?
Très bonne question, Olivier Houdet.
Alors, il y a des tests pour le faire dans mon laboratoire et dans mon bureau en particulier. Alfred Binet, il y a un siècle, avait inventé un test qui est devenu le test qu'on appelle d'intelligence, de quotient intellectuel. Mais aujourd'hui, on a des techniques beaucoup plus fines. C'est-à-dire qu'on peut voir dans ton cerveau comment tu apprends, ce qui se passe quand tu dois raisonner. Et on décèle les processus de l'intelligence. plus finement. Et donc chacun est intelligent à sa façon. Dans le livre Questions-réponses chez Nathan, on a fait une double page sur toutes les formes d'intelligence. Alors certains vont être très très bons en football, ils auront vraiment une intelligence du corps. D'autres très bons en maths, une intelligence très scientifique, mathématique. D'autres très bons en peinture, et bien une intelligence plus visuelle et spatiale. Et donc ils vont chacun utiliser leur cerveau différemment pour être intelligent différemment. Et puis il y a bien sûr une intelligence générale que l'on partage tous, mais il y aura aussi une intelligence d'un musicien par exemple. Tu vois, l'intelligence en fait va essayer d'utiliser différemment le cerveau pour s'adapter au monde en étant heureux. Et pour faire cela, il faut essayer d'être intelligent.
Alice, tu as beaucoup de questions sur la mémoire. D'ailleurs, Olivier Houdet, il n'existe pas une mémoire, mais des mémoires.
Hein. Ah oui, bien sûr.
Question, Alice.
Comment se fait-il que certaines personnes ont plus de mémoire que d'autres ?
C'est ce qu'on appelle des hypermnésiques, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment beaucoup de mémoire, ils enregistrent tout, très souvent visuellement, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une cartographie visuelle de tout ce qu'ils ont vu, d'autres moins. Ces différences-là restent mystérieuses, c'est comme la question du talent, pourquoi telle personne a plus de talent qu'une autre. Il y a sans doute des facteurs génétiques ou des environnements très stimulants qui font qu'on est tous différents dans les capacités que l'on a.
Alice.
Mais donc, est-ce que ça peut se travailler ?
Ah oui, ça se travaille beaucoup, mais tout se travaille dans le cerveau. La mémoire peut se travailler, on peut s'entraîner aux différentes formes de mémoire, mais on peut aussi s'entraîner à calculer. Il existe des calculateurs prodiges qui font des calculs incroyables avec leur cerveau. On peut s'entraîner à faire de la musique, à faire du sport. Donc le cerveau est extrêmement réceptif à l'apprentissage.
Alice ?
Et j'avais une dernière question, est-ce qu'on pourrait greffer un cerveau ? Et si oui, est-ce que les souvenirs du cerveau greffé seraient transmis en même temps ou pas ?
Non, il y a des expériences qui essayent de greffer des cerveaux chez les animaux, chez des rongeurs. Techniquement, évidemment, on peut toujours greffer un organe, mais non, vous perdrez tous vos souvenirs. Il est inimaginable sur le plan éthique de le faire chez l'homme. Et de toutes les façons, votre cerveau, comme on l'a très bien dit dans l'émission, est lié au corps. Et vous avez construit avec votre corps et dans votre environnement des émotions particulières, des sentiments particuliers et une mémoire qui est uniquement la vôtre. Donc, on ne peut pas, non, imaginer que le cerveau conserve ses souvenirs. S'il était greffé, on perdrait tout, on ne garderait que la matière.
Max ?
Mais est-ce que notre mémoire est limitée dans le temps et en quantité ?
Oui, la mémoire est limitée, la mémoire qu'on appelle à court terme. Si je te dis par exemple de retenir un numéro de téléphone, ça va être difficile, tu vas devoir le répéter, mais tu vas parvenir à le retenir.
Oui.
Et ton cerveau ne peut pas faire tellement plus en mémoire à court terme. On dit qu'on peut retenir 7 unités, 7 plus ou moins 2, certains 5, certains 9, mais en moyenne 7. Au-delà de ça, on oublie. C'est pourquoi la mémoire d'un téléphone, par exemple, est beaucoup plus grande que notre mémoire à court terme, puisqu'il y a plein de numéros de téléphone. On oublie. Et c'est bien ainsi, parce que sinon, finalement, notre cerveau serait encombré. Mais si tu étudies des choses beaucoup plus longues, comme un texte, une poésie, eh bien, ça, tu pourras, en répétant, la mémoriser dans ton cerveau. Mais alors, c'est en mémoire à long terme. Une autre région du cerveau qui a nos souvenirs très lointains et qui peuvent durer très longtemps. C'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Et si cette mémoire est relative à ta vie, des épisodes de ta vie, c'est la mémoire épisodique. Donc tu vois, il y a toutes sortes de mémoires dans notre vie.
Bonjour
dans
Elliot.
Notre cerveau, pardon.
Bonjour Elliot, bienvenue dans l'émission. Tu as 12 ans.
Oui.
Et tu appelles de Haute-Savoie. Quelle est ta question ?
Bonjour, je voulais poser la question de où sont stockés les souvenirs ?
Où sont stockés les souvenirs ? Magnifique question, Olivier Houdet.
Beaucoup de souvenirs sont stockés dans ce qu'on appelle le lobe temporal. Il y a différents lobes dans le cerveau. On est à la radio, donc je ne peux pas vous le dessiner. Mais les enfants qui ont la chance de voir le petit livre illustré voient dès la deuxième page le cerveau, c'est lobe. Donc le lobe temporal, il y a là vraiment beaucoup des formes de mémoire que j'ai citées avant, en lien notamment avec les émotions, aussi avec le raisonnement, donc le cortex préfrontal. Mais si je devais répondre vraiment scientifiquement à ta question, je dirais que les souvenirs sont partout dans le cerveau. Parce que si c'est vraiment un souvenir visuel, eh bien ce souvenir sera très lié au cortex visuel qui est à l'arrière du cerveau et aussi au lobe temporal qui est la mémoire. Si c'est le souvenir d'une chanson que vous avez beaucoup aimée, eh bien ça sera plutôt lié au cortex auditif, celui de l'audition. Donc la façon dont nos souvenirs se retiennent dans le cerveau dépend de l'origine du souvenir, que ce soit un son, une image ou une émotion.
Merci Elliot d'avoir appelé. Tiens Max, t'as beaucoup de questions décidément, vas-y.
Mais est-ce que par exemple... si mon père avait beaucoup, beaucoup de mémoire, est-ce que moi aussi, j'aurais beaucoup de mémoire ?
Non, c'est pas vraiment transmissible comme ça. C'est plus transmissible culturellement. Si ton père a beaucoup de mémoire, c'est peut-être parce qu'il a beaucoup lu ou parce qu'il a aimé entraîner sa mémoire. Donc, il aura sans doute tendance avec toi de vouloir réentraîner ta mémoire. Alors, dans ce que tu poses, une question très sérieuse, la part de génétique, d'héréditaire, en quoi nos gènes font qu'on va ressembler à nos parents. On le voit physiquement, on ressemble quand même un peu à nos parents. Donc, il est possible qu'il y ait une partie de ton cerveau qui soit génétiquement déterminé par cela. D'accord. Mais il ne suffit pas d'avoir un père intelligent ou un père qui a une bonne mémoire pour naître intelligent avec une bonne mémoire.
Ça se saurait.
Il faut tout réapprendre.
Bonjour Margot, tu as 9 ans et tu appelles de Savoie. Bienvenue.
Oui, en fait, moi je voulais savoir si on peut avoir de la mémoire même après un accident.
Je crois que ton frère a eu un traumatisme crânien, c'est ça ?
Oui.
Alors, en effet, le cerveau, comme je l'ai dit, est protégé par la boîte crânienne. Mais quelquefois, quand il y a un accident, le choc traverse la boîte crânienne et le cerveau peut être blessé. C'est fragile. Donc, en effet, comme on a vu que chaque partie du cerveau était impliquée dans la mémoire, le raisonnement, les sentiments, la lecture, le calcul, donc toutes les régions du cerveau ont une fonction spécifique. Et si une région est abîmée, on peut avoir, si c'est une région de la mémoire, un trouble de la mémoire. Après, il faut faire de la rééducation. C'est-à-dire qu'il y a des neuropsychologues qui vont aider ton frère, par exemple, s'il a eu un accident, à retrouver sa mémoire. Et peut-être par un autre chemin qu'il le faisait avant, parce que le premier chemin du cerveau est abîmé, on va utiliser un autre chemin, un autre réseau. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vicariance, utiliser une autre partie du cerveau pour faire quelque chose que la partie abîmée ne peut plus faire.
Margot, on a répondu à ta question ?
Oui.
Ben, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir parce que j'ai utilisé des mots compliqués et tu as compris.
Merci beaucoup. Alice, une question ?
Ouais, je voulais revenir un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi le cerveau, il est toujours représenté rose alors qu'il est gris.
Ah oui, c'est une bonne question.
Pourquoi vous dites ça ? Il y a plein... Regardez, voilà, achetez le livre chez Nathan.
Décidément, on a compris, Olivier Houdet.
7 euros et un livre magnifique. 6 euros même. Mais voilà, le cerveau n'est pas du tout rose. Alors, dans la réalité, le cerveau est gris. Après, quand on met des couleurs, ce sont des codes couleurs. Donc, vous avez peut-être vu, je ne sais pas pourquoi, Alice, beaucoup de cerveaux roses, mais le cerveau est gris et les représentations qu'on donne sont tout à fait arbitraires.
Alors, je me fais le porte-voix de Philomène qui nous dit comment les mots font pour aller du cerveau à la bouche. Et une internaute nous dit, Eliane, ma petite fille Zoé, âgée de 5 ans, vient de réagir à votre dialogue en me disant « Mais c'est ma langue qui me fait parler. Pourquoi ils disent que c'est le cerveau ?»
Alors, je dirais qu'elle essaye uniquement avec sa langue et son cerveau. Évidemment, je ne lui souhaite pas. Elle ne parlerait plus parce que la langue, c'est vraiment très important. Mais la langue, la bouche, tout l'aspect articulatoire, c'est la sortie, comme quand vous faites un geste. Donc, en effet,
mais comment les mots font pour aller du cerveau à la bouche ?
Alors, il y a deux chemins. Soit vous avez une idée. Là, j'ai une idée, j'ai envie de dire à Alix, c'est un très bon présentateur d'émission.
Oh là,
C'est venu de mon idée. Et mon idée a déclenché ma bouche et ma langue pour parler. Mais ça peut venir de l'extérieur. C'est-à-dire, vous, là, tu as vu, tu m'as posé une question. J'ai entendu un son qui est passé par mon oreille, qui est arrivé au cerveau, au cortex auditif. Et dans le cerveau, j'ai trouvé une réponse dans ma mémoire qui a déclenché ma bouche, ma langue, etc. Donc, c'est pas la bouche toute seule. La bouche, c'est vraiment l'instrument que le cerveau utilise pour parler.
Merci à tous, merci à tous d'être venus, merci Héloïse, Max, Alice et Thomas, merci Gonelle Boulet d'Astrapi et merci Olivier Houdet d'avoir quitté votre prestigieux laboratoire de la Sorbonne et du CNRS pour vous prêter au jeu des questions d'enfants. Et vous serez d'ailleurs au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil ce vendredi pour une table ronde de 11h30 à 12h30 sur comment fonctionne notre cerveau et suivi d'une dédicace de votre livre, je crois qu'on a compris, qui s'appelait Mon Cerveau. Demain, merci à tous en tout cas, demain nous attendons toutes vos questions sur le climat à l'occasion de la COP24 qui a lieu en Pologne en décembre prochain. On s'intéressera à l'impact du changement climatique sur nos vies quotidiennes. Pour vous répondre, le journaliste du Monde Stéphane Foucard, Fabrice Nicolino et Cyril Dion, standard ouvert au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Grégory Vallon et Pierre-Yves de Rolin. À suivre, Nagui et sa bande originale.